Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 111, Daf Kuf Yud Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Bekarvu Nesachim Bamidbar, nous lisons selon la Shita Mkubetset Kamiflage. Leur sujet de discussion est à savoir si dans le désert, donc dans le sanctuaire qui a été érigé dans le désert, est-ce que les libations étaient exigées? C'est-à-dire, comme nous le verrons par la suite, il y a un passouk dans Bamidbar Tetvav qui prescrit que les libations seront obligatoires uniquement lorsque les Béné Israël arriveront en Eretz Israël. Alors la question se pose, qu'est-ce que le passouk vient nous enseigner? Alors selon l'avis qui dit que les libations étaient déjà obligatoires dans le désert, donc sur l'autel public, ce passouk vient nous enseigner que les libations sont obligatoires même sur l'autel privé, car lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël jusqu'à ce qu'ils ont terminé le partage d'Eretz Israël et qu'ils ont érigé le sanctuaire dans la ville de Shiloh, les autels privés étaient permis. Le passouk vient donc nous enseigner que même pour les sacrifices offerts sur les autels privés, il faudra aussi les accompagner de libations. Si le passouk est interprété de cette manière, nous voyons qu'il peut exister des libations sans que celles-ci soient sanctifiées par un ustensile de service, car sur l'autel privé, il n'y a pas d'ustensile de service. Nous pouvons considérer que les libations seront valables même si elles n'ont pas été sanctifiées dans un ustensile de service. Puisque c'est ainsi, si une personne verse de l'eau qui a été désignée pour les libations de la fête de Sukkot sur un autel extérieur, mais cette eau n'avait pas été sanctifiée dans un ustensile de service, puisque par principe, nous savons que des libations peuvent être valables même s'ils n'ont pas été sanctifiés dans un ustensile de service s'il s'agit d'un autel privé, il aura donc transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur. Mais si les libations n'étaient pas obligatoires dans le désert, donc dans le sanctuaire qui a été érigé dans le désert, le passouk vient enseigner que lorsqu'ils arriveront dans la ville de Shiloh, donc après le partage de toute la terre d'Eretz Israël, et qu'ils érigeront un autel public, à ce moment, les libations seront obligatoires. Donc, sur l'autel privé, il n'y a pas de libation. Il n'y a aucun cas où les libations sont valables si elles n'ont pas été sanctifiées dans un ustensile de service. C'est donc cela que pense Rabbi Lazar. Et c'est pourquoi, si l'eau désignée pour la fête de Sukkot n'avait pas été sanctifiée dans un ustensile de service, elle n'est donc pas valable. Et si une personne l'offre ou les verse donc sur un autel extérieur, il n'a pas transgressé d'interdiction. Selon cette interprétation, tout le monde est d'accord que la quantité d'eau exigée pour les libations est de 3 lougs, pas plus et pas moins. Rabbi Nahamar, il propose une troisième interprétation. Belemedim nisuch hamayim menisuch hayayin pligé. Leur discussion est à savoir si on apprend les lois concernant les libations d'eau des lois concernant les libations de vin. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que les libations étaient obligatoires même dans le désert. Donc, comme nous l'avons expliqué précédemment, le passouk nous enseigne que les libations seront obligatoires sur l'autel privé lorsque les Bnei Israël arriveront en Eretz Israël. Il existe donc une situation où les libations n'ont pas besoin d'être sanctifiées dans un ustensile de service. Mais cela uniquement pour les libations de vin qui accompagnent les sacrifices, car les libations d'eau ne s'effectuent que sur l'autel public. Donc, pour les libations d'eau, il n'y a aucune situation où elles sont valables si cette eau n'a pas été sanctifiée dans un ustensile de service. Alors, le premier auteur de la Braïta compare quand même les libations d'eau aux libations de vin, puisqu'il existe une situation où les libations sont valables sans être sanctifiées dans un ustensile de service. Si une personne verse de l'eau sur un autel extérieur qui n'a pas été sanctifié dans un ustensile de service, il a transgressé l'interdiction. Tandis que Rabbi Lazar ne compare pas les libations d'eau aux libations de vin. Donc, selon lui, il n'y a aucune situation où les libations d'eau sont valables sans être sanctifiées dans un ustensile de service. Par conséquent, s'il a versé cette eau qui n'a pas été sanctifiée dans un ustensile de service sur un autel extérieur, il n'a pas transgressé l'interdiction. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Kuf Yud. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Kuf Yud Aleph à la fin de la deuxième ligne du haut de la page. La Gemara a rapporté précédemment les différents avis concernant celui qui effectue des libations d'eau pendant la fête de Sukkot sur un autel extérieur. La Gemara va enchaîner sur celui qui effectue des libations de vin sur un autel extérieur. Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta. Hamenaser shlosha lugin yain bachutz, celui qui verse une quantité de 3 lougs de vin sur un autel extérieur. Il s'agit de vin qui avait été sanctifié pour accompagner un sacrifice. Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, vehu shekadshan bekli, mais ce, à la condition qu'il ait sanctifié ce vin dans un ustensile au service. Dès lors, il est apte à servir pour effectuer les libations, mais sinon, il n'a pas transgressé l'interdiction. La Gemara demande, Maï ben Ayou, quel est le sujet de discussion entre le premier auteur de la Braïta et Rabbi Lazar, Rabbi Shimon? La Gemara répond, Amar Rav Ada bar Rav Yitzhak, Berutze Midot Ika ben Ayou. Leur sujet de discussion est à savoir si ce qui dépasse d'un ustensile rempli à ras-bord, s'il s'agit d'un ustensile de service, est sanctifié aussi par l'ustensile de service ou non. En effet, même s'il s'agit d'un liquide, lorsqu'on remplit un récipient à ras-bord, il y a un peu de ce liquide qui dépasse de l'espace de cet ustensile. La question est à savoir, est-ce que ce dépassement, puisque finalement il est contenu par l'ustensile, est sanctifié par l'ustensile de service ou non? Selon le premier auteur de la Braïta, même ce qui dépasse de l'ustensile est sanctifié par l'ustensile de service. Donc s'il a rempli un ustensile de service qui contient exactement 3 lougs de vin et il l'a versé sur un autel extérieur, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Selon Rabbi Elazar Rabbi Shimon, ce qui dépasse de l'ustensile n'est pas sanctifié par l'ustensile de service. C'est pourquoi il précise qu'il faut que toute cette quantité de 3 lougs ait été sanctifiée par un ustensile de service, donc il faut qu'elle soit impérativement contenue dans un ustensile légèrement plus grand. Mais sinon, il n'a pas transgressé d'interdiction s'il a versé cette quantité de 3 lougs de vin sur un autel extérieur. Nous lisons selon Rashi, Rabba bereh de Rava Amar, Karvu Nesachim Bebama Ika Benayu. La discussion entre le premier auteur de la Braïta et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon est à savoir si les libations ont été offertes sur des autels privés lorsqu'ils étaient permis. Donc, selon le premier auteur de la Braïta, les libations étaient exigées même sur des autels privés, alors que pour les autels privés, il n'existe pas d'ustensile de service. Donc, nous voyons que les libations sont valables dans certaines situations, même s'ils n'ont pas été sanctifiés par un ustensile de service. C'est pourquoi, s'il a versé le vin désigné pour offrir le sacrifice sur un autel extérieur, même si ce vin n'a pas été sanctifié dans un ustensile de service, il a transgressé une interdiction. Tandis que Rabbi Elazar Rabbi Shimon pense que les libations n'étaient pas exigées sur des autels privés, donc il n'existe aucune situation où les libations étaient valables sans avoir été sanctifiées par un ustensile de service. Par conséquent, s'il verse des libations qui n'ont pas été sanctifiées dans un ustensile de service, il n'a pas transgressé l'interdiction. Ubiplukta d'anetanaye, et cette discussion est la même que celle que nous verrons dans la braïta suivante. Détania, car il est enseigné dans une braïta. Bamat yachid enat tzrichan esachim, un hôtel privé ne nécessite pas de libation pour offrir les sacrifices. Divrei Rebi, ce sont les paroles de Rebi. Vachachamim omrim, teuna esachim, sur un hôtel privé, les libations sont exigées pour accompagnir les sacrifices. Ragmar poursuit, vanetanae kanetanae, et cette discussion, donc, entre Rebi et les Chachamim, est la même que nous verrons dans la braïta suivante. Détania, car il est enseigné dans une braïta, qui interprète le pasouk dans Bamidbar Tedvav, concernant les libations. Le pasouk, ou plutôt ce paragraphe, commence par dire, Kitavou, lorsque vous arriverez en Eretz Israël, etc. Cette précision nous enseigne, Lehat Ina, Nesachim, Beba Magdola, Hakatou Medaber. Le pasouk vient exiger des libations pour accompagner les sacrifices dans des hôtels publics. Donc le pasouk vient dire que lorsqu'il y aura un hôtel public en Eretz Israël, les libations seront obligatoires. Alors Braïta se demande, Ata Omer Beba Magdola, dis-tu que le pasouk vient exiger les libations sur un hôtel public, O Eno Afilu Beba Magtana, ou bien le pasouk parle aussi d'un hôtel privé, donc pour dire que les libations sont obligatoires même pour l'hôtel privé. Que chez Omer, la Braïta répond, lorsque le pasouk dit, toujours dans le même paragraphe, El Eretz Moshvotechem, etc. Asher Ani Noten Lachem, lorsque vous arriverez dans la terre de vos habitations que je vous donnerai, etc. Hare Bebama Hanoeget Lekulchem Akatum Daber. Le pasouk parle donc clairement de ce qui est donné à tout le monde, donc d'un hôtel qui est destiné pour l'utilisation de tout le clan d'Israël, donc l'hôtel public. Divrei Rabbi Ishmael, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Kitavou, lorsque le pasouk dit dans Bamidbar Tedvav, lorsque vous arrivez en Eretz Israël, etc., vous offrirez des libations pour accompagner les sacrifices. Lehat ina nesachim bebama ktana katum daber. Le pasouk vient exiger les libations pour accompagner les sacrifices dans un hôtel privé. Alors Rabbi Akiva se demande, Ata Omer lebama ktana, dis-tu que le pasouk vient exiger les libations pour l'hôtel privé, Oeno ela lebama gdola, ou bien est-ce que le pasouk vient uniquement exiger les libations pour un hôtel public? Il répond que chez Omer el Eretz Moshvotechem, lorsque le pasouk dit, lorsque vous arriverez à la terre de vos habitations, etc., Hare Bebama Hanoeget Bechol Moshavot Hakatum Edaber, il s'agit donc d'un hôtel qui peut être érigé dans toutes les habitations, donc n'importe où en Eretz Israël. Il s'agit donc de l'hôtel privé. Selon Rabbi Akiva donc, lorsque le pasouk poursuit en disant que je vous donnerai, c'est-à-dire qu'il donne à tout le monde, mais en fait à chacun en particulier. Tandis que, selon Rabbi Ishmael, lorsque le pasouk dit Asher Ani Noten Lachem, c'est qu'il donne à tout le monde en bloc, donc il s'agit de l'hôtel public, et le passage qui dit El Eretz Moshvotechem, à la terre de vos habitations, le pasouk veut dire que ces libations seront exigées uniquement lorsque tout le monde sera installé, donc dans leurs habitations respectives. Et c'est uniquement à cette période, donc, lorsque le sanctuaire a été érigé dans la ville de Shiloh, que les libations sont devenues obligatoires. Agmar poursuit, que chez Timtse Lomar, lorsque tu approfondiras cette discussion, tu arriveras à la conclusion suivante. Les divrei Rabbi Ishmael, selon les paroles de Rabbi Ishmael, lo karvo nesachim bamidbar, les libations n'étaient pas obligatoires pour accompagner les sacrifices dans le désert, donc dans le sanctuaire qui était érigé dans le désert. C'est pourquoi le pasouk vient exiger les libations sur l'autel public lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël. Et donc, comme nous l'avons dit précédemment, selon lui, il n'existait pas de libation pour les autels privés. Il n'y a donc aucune situation où les libations sont valables sans avoir été sanctifiées dans un ustensile de service. Ou le dit vrai Rabbi Akiva. Et selon les paroles de Rabbi Akiva, « Karvu nesachim bamidbar », les libations ont été obligatoires pour accompagner les sacrifices dans le désert, dans le sanctuaire qui était érigé dans le désert. Forcément, lorsque le pasouk vient annoncer que lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël, les libations seront obligatoires, le pasouk parle des hôtels privés. Et donc, comme nous l'avons dit précédemment, sur les hôtels privés, il n'y a pas d'ustensile de service. Il y a donc des situations où les libations sont valables, même sans avoir été sanctifiées dans un ustensile de service. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Rabbi Nechemia Omer, Shiare Adam Shikrivan Bachutz, Chayav. Les restes du sang, donc qui restent après les aspersions qu'une personne a aspergées sur un hôtel extérieur, cette personne s'est rendue coupable d'avoir transgressé une interdiction. La Gemara dit là-dessus, Amar Rabbi Yochanan, Tana Rabbi Nechemia, Rabbi Nechemia a enseigné son opinion, que divrei Haomer Shirai Me'akvim, comme celui qui dit que le versement des restes du sang après l'aspersion à la base de l'autel est impératif pour que le sacrifice soit valable. Metive, on a opposé à Rabbi Yochanan la braïta suivante. La braïta dit, Rabbi Nechemia Omer, Shere Adam Sheikrivan Bachutz, une personne qui a aspergé les restes du sang qui reste après l'aspersion sur un autel extérieur s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Amarlo, Rabbi Akiva, Vealo Shere Adam Shere Mitzvahem. Pourtant, le reste du sang qui reste après l'aspersion n'est considéré comme n'étant que le reste d'une mitzvah lorsque la Torah exige de verser ce sang à la base de l'autel. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un sacrifice pour qu'une personne se rende coupable d'avoir transgressé une interdiction s'il asperge ce sang sur un autel extérieur. Amarlo, Rabbi Nechemia lui répond, Evarim Ubdarim Yochichu, je peux te prouver le contraire de ce raisonnement des membres et des graisses des différents sacrifices, Sherhen Sherhen Mitzvah, qui sont uniquement les restes d'une mitzvah, c'est-à-dire que leur offrande n'est pas impérative pour que le sacrifice soit valable, Et quand même, Vehamakrivan Bachutz, celui qui les offre sur un autel extérieur, Chayav, s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Donc même si une personne offre quelque chose dont l'offrande n'est pas impérative pour que le sacrifice soit valable, il a transgressé une interdiction, étant donné que finalement, il s'agit d'une partie du sacrifice destinée à être offerte sur l'autel. Amar lo, Rabbi Akiva lui répond, lo, non, cette réfutation n'en est pas une, car im amarta be'evarim ubdarim, si tu dis que celui qui offre les membres ou les graisses de sacrifice sur un autel extérieur s'est rendu coupable, bien que leur offrande n'est pas impérative pour que le sacrifice soit valable, parce que finalement, shehen trilat avoda, car leur offrande sur l'autel est le début d'un acte de service. Par conséquent, comme l'explique le Chazon Yecheskel sur la Tosefta Perek Yudbet Halachadalet, nous considérons que l'offrande de ses membres ou de ses graisses sur l'autel est une offrande en soi. Et c'est pourquoi, si une personne les offre sur l'autel extérieur, il a transgressé l'interdiction. Tomar Bechere Adam, peux-tu dire la même chose concernant les restes du sang qui restent après l'aspersion chez Enan Trilat Avoda, qui ne sont pas le début d'un acte de service? En effet, ces restes sont versés après que l'aspersion impérative est terminée. Puisque c'est ainsi, on ne peut pas considérer que cet acte de service est considéré suffisamment important pour que si on le fait à l'extérieur du sanctuaire, cette personne s'est rendue coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur. En tout cas, nous voyons dans la Braïta qu'apparemment Rabbi Nechemia est d'accord avec Rabbi Akiva que le versement du sang sur la base de l'autel n'est pas impératif pour que le sacrifice soit valable. Vimita, car s'il est vrai que Rabbi Nechemia pensait que le versement du reste du sang à la base de l'autel est impératif pour que le sacrifice soit valable, les malais, il n'a qu'à lui répondre à Rabbi Akiva, Haninami Meakve. Cela aussi, donc, les restes du sang qu'on verse à la base de l'autel sont impératifs pour que le sacrifice soit valable. La Gemara conclut, Tchoufta, c'est une réfutation définitive de l'enseignement de Rabbi Yochanan. La Gemara poursuit, Vehashta d'Amar Ravada Barava. Maintenant que Ravada Barava dit, Machloket Beshiraim Apnimim, la discussion qui existe en ce qui concerne le versement du sang à la base de l'autel est uniquement en concernant les restes de sang provenant de sacrifices dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire. Aval Beshiraim Achitsonim, mais s'il s'agit du reste de sang provenant de sacrifices dont le sang est aspergé sur l'autel extérieur, donc de Korban Khatat, dont le sang est aspergé sur l'autel extérieur, d'ivrei hakol lo me'akve, selon tout le monde, ces restes de sang ne sont pas impératifs. Nous pouvons répondre à la question que nous avons posée à Rabbi Yochanan en disant, Ki kamar Rabbi Nechemia, quand Rabbi Nechemia dit que celui qui asperge le reste du sang après les aspersions sur un autel extérieur a transgressé une interdiction, c'est uniquement sur le reste de sang provenant de sacrifices dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire, car le versement de ce sang est impératif, comme nous l'avons dit. Kitaniaï, mais cette braïta qui enseigne que Rabbi Nechemia est d'accord avec Rabbi Akiva que le versement du reste du sang à la base de l'autel n'est pas impératif, Beshiraim Hachitsonim parle de reste de sang provenant de sacrifices dont le sang est aspergé sur l'autel extérieur. Effectivement, là-dessus, Rabbi Nechemia est d'accord qu'une personne qui asperge ce sang sur un autel extérieur n'a pas transgressé d'interdiction. En nous lisant, selon la note marginale et selon Rashi, Yachi, si c'est ainsi, Nemale, Rabbi Nechemia n'avait qu'à lui répondre à Rabbi Akiva, qui amrei ana bepnimim, quand est-ce que je parle, donc que je dis que celui qui asperge le reste du sang sur un autel extérieur a transgressé une interdiction, c'est uniquement lorsqu'il s'agit du sang provenant d'un sacrifice dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire. Pourquoi donc discute-t-il avec Rabbi Akiva en lui cachant son opinion? L'Agma répond, et là plutôt, les dvarav de Rabbi Akiva Kamar, Rabbi Nechemia a répondu à Rabbi Akiva selon sa compréhension et selon son opinion. C'est-à-dire, toujours pourrais-je te dire que Rabbi Nechemia pense que le versement du reste de sang provenant soit de sacrifices dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire, soit de ceux qui sont aspergés sur l'autel extérieur, est impératif pour que le sacrifice soit valable lorsqu'il s'agit évidemment de Korban Khatat. Et c'est pourquoi, selon lui, si l'asperge se sent sur un autel extérieur, il a transgressé une interdiction. Cependant, lorsqu'il discute avec Rabbi Akiva dans la Braïta, il lui répond en présentant un argument qui serait valable, même selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui pense que le versement du reste du sang n'est pas impératif. Nouvelle Mishnah. Hamolek et Ha'of Bifnim, celui qui sacrifie un oiseau qui avait été désigné comme sacrifice à l'intérieur, donc dans la cour du sanctuaire, à la manière dont on le fait dans la cour du sanctuaire, c'est-à-dire en plantant son ongle dans l'arrière du cou, et il l'a offert sur un autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire, étant donné que cet oiseau sacrifié ainsi était un sacrifice valable qu'il a donc offert sur un autel extérieur. Par contre, Malak Bachutz, si il l'a tué de cette manière à l'extérieur, donc en plantant son ongle dans son cou, Vehe'ela Bachutz, et il l'a offert sur un autel extérieur, Patour, il est exempté. Et cela, étant donné qu'à l'extérieur du sanctuaire, il n'existe pas ce type de sacrification d'abattage de planter son ongle dans le cou, nous considérons qu'il a simplement tué cet oiseau, ou ce sacrifice. Dès lors, ce n'est plus un sacrifice, donc il n'a pas transgressé l'interdiction lorsqu'il l'a offert sur un autel extérieur. Et sur le fait de l'avoir tué ainsi, il n'a non plus pas transgressé l'interdiction, comme nous l'avons vu plus haut, Daf Kuf Zayin, au début de ce chapitre. Hashochet et Ha'of Bifnim, celui qui sacrifie un oiseau qui avait été désigné comme sacrifice dans la cour du sanctuaire avec un couteau, comme on abat un animal, Vehe'ela Bachutz, et il l'a offert sur un autel extérieur, Patour, il est exempté, étant donné que ce sacrifice a été invalidé à l'origine lorsqu'il a été sacrifié de cette manière. Par conséquent, il ne transgresse plus l'interdiction s'il l'offre sur un autel extérieur.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kuf Yud Alef Amud Bet. Shachat Bachutz Vehe'ela Bachutz. Par contre, s'il a battu cet oiseau avec un couteau à l'extérieur et l'a offert sur un autel à l'extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. En effet, pour l'avoir abattu de cette manière avec un couteau, la Gemara a appris plus haut Daf Kuf Zayin d'un pasouk spécial qu'en sacrifiant un oiseau désigné comme sacrifice avec un couteau à l'extérieur, une personne se rend coupable d'avoir transgressé l'interdiction de sacrifier un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Et par conséquent, si il l'a offert sur un autel extérieur, il a aussi transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur, comme la Gemara le dira plus loin, Daf Kuf Yud Tet. Nimtza, il se trouve donc que Derech Hershero Bifnim, à la manière dont l'oiseau est valable comme sacrifice à l'intérieur de la cour du sanctuaire, Turo Bachutz, il est exempté s'il fait la même chose à l'extérieur, c'est-à-dire s'il sectionne son cou avec son ongle, Derech Hershero Mi Bachutz, Turo Mi Bifnim, à la manière dont ce sacrifice est valable à l'extérieur, il est exempté à l'intérieur. En fait, comme l'Agmara le remarque, cette phrase ne veut rien dire, car un sacrifice n'est jamais valable à l'extérieur. L'Agmara va donc corriger cette phrase, et en fait, ce que la Mishnah veut dire, c'est la chose suivante. Il se trouve que la manière dont l'oiseau est sacrifié dans la cour du sanctuaire, qui le rend coupable pour l'offrir sur un autel extérieur, l'exempte si cet oiseau est sacrifié de la même manière à l'extérieur. En effet, il est coupable pour offrir l'oiseau à l'extérieur du sanctuaire si l'oiseau est sacrifié en plantant l'ongle dans le cou, dans la cour du sanctuaire, mais si il est sacrifié de cette manière à l'extérieur, il est exempté, comme nous l'avons dit. Et la manière dont l'oiseau est sacrifié à l'extérieur, qui le rend coupable pour son offrande sur un autel extérieur, l'exempte si cet oiseau est sacrifié de la même manière à l'intérieur. En effet, comme nous l'avons dit, lorsque l'oiseau est sacrifié avec un couteau à l'extérieur, une personne se rend coupable de son offrande sur un autel extérieur, mais s'il est sacrifié avec un couteau dans la cour du sanctuaire, le sacrifice est invalidé, il est donc exempté s'il l'offre sur un autel extérieur. Rabbi Shimon Omer, Kol Shechayavin Alav Bachutz, toute situation où, lorsque le sacrifice est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire, une personne se rend coupable de son offrande sur un autel extérieur, on se rend coupable aussi de la même manière s'il est sacrifié dans la cour du sanctuaire, puis il a été offert sur un autel extérieur. À part le cas de celui qui sacrifie un oiseau avec un couteau dans la cour du sanctuaire, puis il l'a offert sur un autel extérieur. La Gemara expliquera qu'est-ce que Rabbi Shimon veut dire. Nous avons vu donc dans la Mishnah qui dit que la manière dont le sacrifice, dont l'oiseau offert comme sacrifice est valable à l'extérieur, il est exempté s'il a été sacrifié de la même manière à l'intérieur, puis il a été offert sur un autel extérieur. En fait, comme nous l'avons expliqué, ce que la Mishnah voulait dire, c'est que lorsque l'oiseau est sacrifié avec un couteau à l'extérieur, la personne qui l'offre sur un autel extérieur s'est rendue coupable d'avoir transgressé une interdiction, tandis que s'il avait été sacrifié de la même manière à l'intérieur, il est exempté. Alors la Gemara demande, « Hai hershero » Le terme employé par la Mishnah, que le sacrifice est valable, est-il juste ?« Chiyuvohu » En fait, ce que la Mishnah aurait dû dire, la manière dont il se rend coupable lorsque l'oiseau est sacrifié d'une certaine manière, à l'extérieur, il est exempté lorsqu'il est sacrifié de la même manière à l'intérieur. La Gemara répond, effectivement, il faut corriger la Mishnah, Tane Chiyuvo, il faut lire donc la manière dont il se rend coupable lorsque l'oiseau est sacrifié de cette manière à l'extérieur. S'il est sacrifié de la même manière à l'intérieur, une personne est exemptée si ensuite il est offert sur un autel extérieur. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Rabbi Shimon Omer, etc. Alors la Gemara demande à Hechakaye, sur quoi se rapporte cet enseignement de Rabbi Shimon? Il est Mare Shakaye, si Rabbi Shimon se rapporte au début de la Mishnah, qui dit donc Hamolek of Bifnim, celui qui sacrifie un oiseau qui avait été désigné comme sacrifice à l'intérieur du sanctuaire, et ce, comme on le fait habituellement pour un sacrifice, donc en plantant son ongle dans son cou, puis il l'a offert sur un autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Malak Bachutz Ve'ela Bachutz, tandis que s'il l'a sacrifié de cette manière, donc en plantant son ongle dans son cou à l'extérieur du sanctuaire et l'a ensuite offert sur un autel extérieur, Patour, il est exempté. Ve'amarle Rabbi Shimon, et là-dessus Rabbi Shimon dirait, Ki hechi debifnim Michayev, de même que s'il est sacrifié de cette manière en plantant son ongle dans son cou, il se rend coupable pour son offrande sur un autel extérieur. Bachutz nami Michayev, s'il est sacrifié de la même manière à l'extérieur, donc en plantant son ongle dans son cou, il est aussi coupable pour son offrande sur un autel extérieur. Si c'est cela que Rabbi Shimon voulait dire, Hai kol shechayavim alav bachutz, cette manière de s'exprimer lorsqu'il dit, dans toute situation où on se rend coupable pour son offrande sur un autel extérieur, lorsqu'il est sacrifié d'une certaine manière à l'extérieur, est-elle juste? Kol shechavin alav bifnim ivaile. Il aurait dû s'exprimer en disant, dans toute situation où une personne se rend coupable pour l'offrande à sacrifice à l'extérieur, s'il est sacrifié d'une certaine manière dans la cour du sanctuaire, il en sera de même s'il est sacrifié à l'extérieur. Et là, plutôt, c'est cela qu'il aurait voulu dire, Kehri debachutz lo michayev, de même qu'à l'extérieur, donc s'il est sacrifié de cette manière, en plantant son ongle dans son cou, à l'extérieur, il est exempté, car ce sacrifice est invalidé. Bifnim nami lolichayev, il ne sera pas coupable pour son offrande, même si ce sacrifice est sacrifié de cette manière à l'intérieur. Si c'est ainsi, hay kol she'en chayavin alav bachutz mibayle, il aurait dû s'exprimer en disant, dans toute situation où une personne ne se rend pas coupable pour l'offrande d'un sacrifice s'il est sacrifié d'une certaine manière à l'extérieur, il sera aussi exempté s'il est sacrifié de la même manière à l'intérieur. Donc forcément, ce n'est pas cela que Rabbi Shimon a voulu dire. Et là, plutôt à Sefakae, il se rapporte à la fin de la Mishnah, qui dit « Hashochet of Bifnim » Celui qui sacrifie un oiseau désigné comme sacrifice dans la cour du sanctuaire avec un couteau « Ve'ela Bachutz » puis il l'a offert sur un autel extérieur, patour, il est exempté, étant donné que le sacrifice est invalidé. Shachat bachutz ve'ela bachutz, mais s'il l'a sacrifié de cette manière, donc avec un couteau à l'extérieur, puis l'a offert ensuite sur un autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction. Vamarleh Rabbi Shimon, et là-dessus Rabbi Shimon dirait, Ki hechi de bifnim lo mechayev, de même que dans le cas où il est sacrifié avec un couteau dans la cour du sanctuaire, il ne se rend pas coupable d'avoir transgressé l'interdiction pour son offrande sur un autel extérieur, Bachutz nami lo mechayev, il ne sera pas non plus coupable s'il est sacrifié de cette manière à l'extérieur. Nous lisons selon la Shita Mukubetset, Hay kol she'en chayavin alav bifnim, en chayavin alav bachutz mibaile. Il aurait dû s'exprimer en disant, dans toute situation où une personne ne se rend pas coupable pour l'offrande d'un sacrifice sur un autel extérieur, s'il est sacrifié d'une certaine manière, donc avec un couteau, dans la cour du sanctuaire, il en sera de même s'il est aussi sacrifié de cette manière, donc avec un couteau, à l'extérieur. En fait, il dit le contraire dans la Mishnah. Et là, plutôt, ce qu'il voulait dire, qui est écrit de Bachutz Mechayev, de même que lorsque l'oiseau est sacrifié de cette manière avec un couteau, à l'extérieur, il se rend coupable pour son offrande sur un autel extérieur. Bifnim Nami Mechayev, il sera coupable aussi pour l'offrande de cet oiseau, s'il est sacrifié de cette manière, donc avec un couteau, à l'intérieur, dans la cour du sanctuaire. Or, ceci aussi est impossible, car Hakatane, car il est enseigné, donc Rabbi Shimon dit clairement, Chutz min hashochet bifnim vala male bachutz, à part le cas où il sacrifie un oiseau avec un couteau à l'intérieur dans la cour du sanctuaire, puis il l'offre ensuite sur un autel extérieur. Donc nous voyons clairement que Rabbi Shimon est d'accord que dans ce cas, il est exempté. Alagma répond, en fait, il faut insérer un passage supplémentaire dans la Mishnah. Amar Zeiri, Shritat Behema Balai Laika Benayu, la discussion entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Shimon est dans le cas où un animal est sacrifié la nuit. En fait, il s'agit d'un sacrifice invalidé. Ve'achika amar, et c'est ainsi qu'il faut dire, donc il faut insérer un passage dans la Mishnah. Ve'chen ha'shochet behema bifnim balayla, et ainsi, celui qui sacrifie un animal, donc un sacrifice, la nuit, à l'intérieur du sanctuaire, ve'ela bachutz, et il l'a offert sur un autel extérieur, patour, il est exempté, car il s'agit d'un sacrifice invalidé. L'auteur de la Mishnah penserait comme Rabbi Houda, qui dit clairement plus haut d'Af Pédalet que lorsqu'un sacrifice est sacrifié la nuit, il s'agit d'une invalidité totale, il ne sera pas accepté par l'autel si on l'y met dessus par erreur. C'est pourquoi donc, s'il l'offre ensuite sur un autel extérieur, il est exempté. Shachat Bachutz Balayla, tandis que s'il a sacrifié ce sacrifice à l'extérieur, pendant la nuit, Vehela Bachutz, puis l'a offert ensuite sur un autel extérieur, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction. Et cela car de toute façon, la sacrification du sacrifice en dehors du sanctuaire ne rentre pas dans le cadre du sacrifice d'un sacrifice. Et quand même, la Torah le condamne pour l'avoir offert à l'extérieur. Il en sera de même s'il l'offre ensuite sur un autel extérieur. Rabbi Shimon Omer, et là-dessus Rabbi Shimon dit, « Kol shechayavin alav bachutz, dans toute situation où on se rend coupable pour l'offrande d'un sacrifice s'il est sacrifié à l'extérieur, chayavin al kayotzed bo bifnim ve'ela bachutz, on se rend coupable aussi de même s'il est sacrifié à l'intérieur, puis il a été offert sur un autel extérieur. Donc, si le sacrifice est sacrifié la nuit à l'extérieur, une personne transgresse une interdiction s'il l'offre ensuite sur un autel extérieur, il en sera de même s'il est sacrifié la nuit à l'intérieur du sanctuaire. Chutz min hashochet of bifnim ve'ela bachutz, à part le cas où il a sacrifié un oiseau désigné comme sacrifice avec un couteau à l'intérieur, puis l'a offert ensuite sur un autel extérieur. Et cela car Rabbi Shimon suit sa propre opinion plus haut d'Af Pédalet, qui pense que cette invalidité d'avoir sacrifié un sacrifice la nuit n'est pas une invalidité totale. Et si on met ensuite ce sacrifice sur l'autel qui se trouve dans la cour du sanctuaire, il sera accepté, il ne sera pas nécessaire de l'enlever de l'autel. Rabba Amar Kabbalah Bechlichol Ika Benayu, Rabba dit, propose une autre interprétation, que la différence, donc la discussion entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Shimon, est dans le cas où le sang du sacrifice a été recueilli dans un ustensile profane qui n'est pas un ustensile de service. Ve'arika Amar, et c'est ainsi qu'il faut dire, c'est cela le passage qu'il faut insérer dans la Mishnah. Vechen, hamekabel biklichol bifnim. Et ainsi, s'il a recueilli le sang du sacrifice dans un ustensile profane qui n'est pas un ustensile de service à l'intérieur de la cour du sanctuaire, et il a ensuite offert ce sacrifice sur un autel extérieur, patour, il est exempté, étant donné que ce sacrifice est invalidé. L'auteur de la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Houda, plus haut d'Af Pedalet, qui dit que ce type d'invalidité est une invalidité totale. Par conséquent, celui qui l'offre sur un autel extérieur est exempté. Hamekabel biklichol bachutz, tandis que celui qui recueille le sang du sacrifice dans un ustensile profane qui n'est pas un ustensile de service, et ce à l'extérieur du sanctuaire, vehela bachutz, puis l'a offert ensuite sur un autel extérieur, chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Étant donné qu'on a fait sortir le sacrifice du sanctuaire, de toute façon il est invalidé, le recueillement de son sang n'a donc aucune incidence sur ce sacrifice. Rabbi Shimon Omer, kol shechayavin alav bachutz, pour toute situation où on se rend coupable de l'offrande d'un sacrifice sur un autel extérieur, lorsqu'une action précédente a été effectuée à l'extérieur, chayavin al kayotzebo bifnim, on se rend coupable aussi de même lorsque cette action en question a été effectuée à l'intérieur dans la cour du sanctuaire, ve'elo bachutz, puis on a offert ensuite ce sacrifice sur un autel extérieur. Donc, de même que lorsqu'on a recueilli le sang d'un sacrifice dans un ustensile profane à l'extérieur, une personne se rend coupable s'il l'a offert ensuite sur un autel extérieur. Il en sera de même si ce sang a été recueilli dans un ustensile profane à l'intérieur du sanctuaire. Parce que Rabbi Shimon suit sa propre opinion, selon laquelle ce type d'invalidité n'est pas définitive. C'est-à-dire, si on met ce sacrifice par erreur sur l'autel, il n'est pas nécessaire de le faire descendre. Chutz mina shochet otz bifnim, à part le cas où il a sacrifié un oiseau désigné comme sacrifice avec un couteau à l'intérieur du sanctuaire, ve'elo bachutz, puis l'a offert sur un autel extérieur, dans ce cas, il sera exempté. Hashta detane avuha de Shmuel bar Avitzrak, maintenant que le père de Shmuel bar Avitzrak a enseigné clairement dans une braïta, qui dit comme suit, Hamolek of bifnim, celui qui sacrifie un oiseau à l'intérieur de la cour du sanctuaire, à la manière dont on le fait habituellement en plantant son ongle dans son cou, puis il l'a offert ensuite sur un autel extérieur, chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction. Malak bachutz, ve'ela bachutz, tandis que s'il a sacrifié de cette manière en plantant son ongle dans son cou à l'extérieur du sanctuaire, puis il l'a offert ensuite sur un autel extérieur, patour, il est exempté, ve'rabi Shimon mechayev, tandis que Rabbi Shimon le condamne. Rabbi Shimon Hatam Kaye, on peut dire donc que Rabbi Shimon se rapporte à ce cas enseigné au début de la Mishnah. Vetane, cependant, il faudra corriger la phrase employée par Rabbi Shimon et dire Kol Shechayavin Alav Bifnim Veheela Bachutz, dans toute situation où on se rend coupable pour l'offrande d'un sacrifice lorsqu'il est sacrifié à l'intérieur, d'une certaine manière, puis il a été offert sur un autel extérieur. Chayavin alav bachutz, on se rendra coupable pour l'offrande de ce sacrifice, même lorsqu'il est sacrifié de cette manière à l'extérieur du sanctuaire. Nous sommes Masechet Zvachim Daf Kuf Yud Alef Amud Bet, à la 9e ligne du bas de la page, juste avant la Mishnah. Nous avons vu donc dans la Mishnah l'enseignement de Rabbi Shimon qui dit que dans toute situation où une personne se rend coupable pour l'offrande d'un sacrifice sur un autel extérieur, lorsque sa sacrification a lieu aussi à l'extérieur, on se rend coupable pour l'offrande de ce même sacrifice, même si sa sacrification a eu lieu à l'intérieur. Sauf dans le cas d'un oiseau désigné comme sacrifice qu'on a sacrifié avec un couteau à l'intérieur et qu'on a offert sur un autel extérieur, car dans cette situation, le sacrifice est d'une invalidité totale, ne peut pas être accepté. On ne transgresse donc pas l'interdiction d'offrir ce sacrifice sur un autel extérieur. Alors, la Gemara a donné deux interprétations pour expliquer ce que Rabbi Shimon voulait enseigner. La première interprétation, c'est que Rabbi Shimon voulait enseigner que si on sacrifie un sacrifice la nuit et il est offert sur un autel extérieur, une personne s'est rendue coupable si la sacrification a eu lieu à l'intérieur, de même que si elle avait eu lieu à l'extérieur. Deuxième possibilité, c'est que si le sang du sacrifice a été recueilli dans un ustensile profane qui n'est pas un ustensile de service, puis il a été offert sur un autel extérieur, il s'est rendu coupable, même si le recueillement de ce sang a lieu à l'intérieur, donc dans la cour du sanctuaire, de même que s'il avait eu lieu à l'extérieur. Troisième possibilité, c'est en s'appuyant sur une braïta enseignée par le père de Shmuel Bar Avitzrak, qui dit que selon Rabbi Shimon, si un oiseau désigné comme sacrifice a été sacrifié à la manière dont on le fait habituellement, donc en plantant l'ongle dans le cou de cet oiseau, puis il a été offert sur un autel extérieur, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction, même si cette sacrification a lieu à l'extérieur, de même que si elle avait eu lieu à l'intérieur. Tandis que selon le premier auteur de la Braïta, et donc le premier auteur de notre Mishnah aussi, dans le cas où la sacrification de cette manière a lieu à l'extérieur, nous considérons qu'il a simplement tué l'oiseau, donc il ne se rend pas coupable pour avoir transgressé une interdiction lorsqu'il l'a offert sur un autel extérieur. Donc, selon cette troisième interprétation, il faut modifier la règle générale rédigée par Rabbi Shimon, et il faut lire ainsi, dans toute situation où une personne se rend coupable pour l'offrande d'un sacrifice sur un autel extérieur lorsque sa sacrification a lieu à l'intérieur, il en sera de même aussi s'il est sacrifié à l'extérieur. Nous pouvons déduire de cette règle générale que si une personne ne se rend pas coupable pour l'offrande du sacrifice sur un autel extérieur lorsqu'il est sacrifié à l'intérieur, par exemple parce qu'il s'agit d'un sacrifice invalidé, il ne sera pas coupable pour l'offrande de ce sacrifice, même s'il est sacrifié à l'extérieur. Là-dessus, Rabbi Shimon émet une restriction en disant, à part le cas où une personne sacrifie un oiseau désigné comme sacrifice avec un couteau à l'intérieur et il l'a offert sur un autel extérieur, dans ce cas, il est exempté comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Cependant, si cette sacrification a lieu à l'extérieur, il se rendra coupable d'avoir transgressé une interdiction s'il l'offre sur un autel extérieur. Et cela, comme nous l'avons dit dans la Mishnah, car nous l'apprenons d'un pasouk. Nouvelle Mishnah. Khatat shekibel dama bekos echad. Un korban khatat dont il a recueilli le sang dans un verre ou dans un récipient. Natan bachutz vechazar venatan bifnim. S'il a aspergé une partie de ce sang à l'extérieur, puis l'a à nouveau aspergé de ce sang à l'intérieur, donc sur l'autel qui se trouve dans la cour du sanctuaire, ou bien bifnim vechazar venatan bachutz, ou bien s'il a en premier aspergé du sang de ce sacrifice sur l'autel qui se trouve dans la cour du sanctuaire, puis l'a aspergé le reste du sang ou une partie du sang sur un autel extérieur, chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction chez Kulo Raoui Bifnim, car tout ce sang est apte à être aspergé à l'intérieur. Donc, dans le premier cas où il s'agit de la première aspersion, il est évident que ce sang était apte à être aspergé sur l'autel intérieur. Même dans le cas où il a commencé par les aspersions à l'intérieur, l'auteur de la Mishnah pense, comme la Gemara expliquera, que le versement du reste du sang à la base de l'autel est impératif. Donc, finalement, ce sang devait être aspergé et versé à la base de l'autel. Lorsqu'il l'a aspergé à l'extérieur, il a transgressé une interdiction. Kibel damah beshne kosot, s'il a recueilli le sang de ce korban khatat dans deux verres, dans deux récipients, natan shnehem bifnim, s'il a aspergé le sang contenu dans ces deux récipients à l'intérieur, patour, il est exempté. C'est d'ailleurs évident car il a agi comme il le devait. Shnehem bachutz, s'il a aspergé le sang contenu dans les deux récipients à l'extérieur, chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction pour les deux récipients. Et cela car, étant donné qu'il n'a pas employé le sang contenu dans le premier récipient pour l'aspersion sur l'autel qui se trouve dans la cour du sanctuaire, le sang contenu dans le deuxième récipient devait être aspergé sur l'autel qui se trouve dans la cour du sanctuaire. Finalement donc, ce sang était apte à être aspergé à l'intérieur. Il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction donc pour l'aspersion du sang contenu dans ces deux récipients. S'il l'a fait dans le cadre d'un seul oubli, il n'est condamné qu'à offrir un seul korban khatat, mais s'il s'est rendu compte entre-temps qu'il a transgressé une interdiction, il devra offrir deux korban khatat. Echad bifnim ve echad bachutz, s'il a aspergé en premier du sang contenu dans un des récipients à l'intérieur, puis l'a employé le sang contenu dans le deuxième récipient pour l'asperger sur un autel extérieur, patour, il est exempté, car une fois que les aspersions ont été effectuées à partir du sang contenu dans le premier récipient, le sang contenu dans le deuxième récipient n'est plus apte à être utilisé, ni même pour être versé à la base de l'autel, comme la Gemara l'expliquera. Echad bachutz vechad bifnim. Cependant, s'il a aspergé le sang contenu dans le premier récipient à l'extérieur, puis le deuxième, il l'a aspergé à l'intérieur, chayav al hachitzon, il s'est rendu coupable pour avoir transgressé une interdiction pour le sang qu'il a aspergé à l'extérieur, vapnimi mechaper, tandis que le sang qui a été aspergé à l'intérieur expie le péché, donc le sacrifice est valable, étant donné que le sang contenu dans le deuxième récipient n'est pas sorti. Les ma'adavardomé, à quoi ce cas ressemble? La Mishnah répond, les mafrish chatato ve'avda, au cas d'une personne qui a désigné un animal pour l'offrande de son korban chatat, et cet animal, ce sacrifice, s'est perdu, ve'hifrish acheret tachteha, et il en a désigné un autre pour le remplacer, ve'achakach nimtzed harishona, puis après, il a retrouvé le premier animal, ve'areshtem omdot, maintenant les deux sont devant lui, il a le choix d'offrir un des deux animaux pour son sacrifice. Shachat shtehem bifnim, s'il a sacrifié les deux à l'intérieur, patour, il est exempté. C'est-à-dire, il n'a pas transgressé l'interdiction. Le premier est valable et le deuxième est invalidé car il s'est déjà rendu quitte de l'obligation d'offrir son korban chatat, mais en tout cas, il n'a pas transgressé l'interdiction. Shtehem bachutz, s'il a sacrifié les deux sacrifices à l'extérieur, chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction pour la sacrification de ces deux sacrifices. Achat bifnim ve'achat bachutz, s'il a sacrifié le premier à l'intérieur, puis le deuxième à l'extérieur, patour, il est exempté, car étant donné qu'il a sacrifié le premier à l'intérieur, le deuxième est invalidé, ne peut plus être accepté comme sacrifice, il est donc exempté. Achat bachutz ve'achat bifnim, s'il a sacrifié le premier à l'extérieur, et le deuxième à l'intérieur, Chayav al-Hachitzona, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction pour le sacrifice qu'il a sacrifié à l'extérieur, Ve'apnimit mechaperet, tandis que celui qui a été sacrifié à l'intérieur expie son péché. La Mishnah conclut par une loi concernant l'interdiction de Meïla, sachant que l'aspersion du sang d'un sacrifice et qui permet donc la consommation de la viande de celui-ci, lève aussi l'interdiction de Meïla, donc l'interdiction de tirer profit de la viande. En concernant le cas où cette personne a sacrifié les deux korban chatat à l'intérieur, en fait le premier est valable, mais le deuxième n'est pas valable, car en ayant offert le premier, il s'est rendu quitte de l'obligation d'offrir un korban chatat, le deuxième est donc invalidé. La question se pose, est-il permis de tirer profit de la viande de ce sacrifice ou non? La Mishnah dit que Shem Shedama Poteret et Besara, de même que l'aspersion du sang du premier sacrifice exempte la viande, c'est-à-dire lève l'interdiction de Meïla de tirer profit de cette viande, car Hipoteret et Besar Haberta, ainsi aussi elle exempte la viande, donc elle lève l'interdiction de Meïla de tirer profit de la viande de sa prochaine, donc du deuxième Korban Khatat. Et cela car, comme l'explique le Tarat HaKodesh, un sacrifice a deux types de sainteté. La première, celle qu'il reçoit lorsqu'il est sanctifié et désigné comme sacrifice. Le deuxième, c'est lorsqu'il est sacrifié, il a une sainteté supplémentaire conférée par la sacrification, donc par le couteau qui est un ustensile de service. Il est vrai qu'en général, un korban chatat dont le propriétaire a expié son péché par l'offrande d'un autre sacrifice. Le premier sacrifice est destiné à mourir. Il n'y a donc plus l'interdiction de Meïla d'en tirer profit, Minatora. Cependant, ceci n'est vrai que lorsque le sacrifice est vivant, lorsque l'autre sacrifice de remplacement a été sacrifié et son sang a été aspergé. Dans l'autre cas, où il a sacrifié les deux sacrifices en même temps, il a toujours le choix donc d'asperger le sang de n'importe quel des deux sacrifices. Les deux sacrifices ont la sainteté conférée par la sacrification. Même si un des deux sacrifices est invalidé par l'aspersion du sang du premier, cette sainteté n'a pas disparu pour autant. D'ailleurs, si on offrait le deuxième sacrifice sur l'autel par erreur, il était accepté, il n'était pas nécessaire de le faire descendre. Cependant, il y a un lien entre ces deux sacrifices, car l'un dépend de l'autre, car seul le sang d'un de ces deux sacrifices pourra être aspergé. C'est pourquoi la première sainteté qui a pris effet lorsque l'animal a été sanctifié, donc désigné comme sacrifice, a disparu par l'aspersion du sang du premier sacrifice, étant donné que le deuxième sacrifice est invalidé, son sang ne peut plus être aspergé. Mais en ce qui concerne la deuxième sainteté conférée par la sacrification, elle ne peut disparaître que si l'on considère que ces deux sacrifices ne font qu'un seul, et l'aspersion du sang du premier a en fait agi aussi pour le deuxième, comme le dit la Mishnah. Mais ceci, comme la Gemara le dit dans Maseret Meila, Davav, c'est uniquement si les deux sacrifices ont été sacrifiés exactement en même temps. Dès lors, à cause du lien qui lie ces deux sacrifices, ils sont considérés comme un seul sacrifice. Et par conséquent, l'aspersion du sang d'un de ces deux sacrifices agit aussi pour l'autre sacrifice et lève l'interdiction de Meïla. Mais s'ils n'ont pas été sacrifiés en même temps, mais un après l'autre, on ne peut plus considérer qu'il s'agit d'un seul et même sacrifice, et l'aspersion du sang du premier n'agira pas pour le second. Donc même si la première sainteté a disparu, comme nous l'avons dit précédemment, la deuxième ne disparaîtra pas, il sera toujours interdit d'en tirer profit. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim, Daf Kuf Yud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.